Radio Okapi.
À la une, la tournée de l'inspection générale de la police nationale congolaise ce week-end dans des cachots de la police à Kinshasa. Sur terrain, des cas d'arrestations arbitraires et de dépassement du délai de détention ont été relevés. Vous serez le constat de l'inspecteur général Jean-Claude Chibuyanga. Nous serons en Ituri. L'accès à l'eau potable, un véritable défi pour la population de Komanda Centre et ses environs. Plus de 20 000 habitants, ajoutés à cela de nombreux déplacés, n'ont que de puits non aménagés et des rivières pour s'approvisionner, d'où leur appel pour des projets d'adduction d'eau. Comme invité, Souleymane Kaouka, coordinateur de TKCOP. Il s'agit d'une nouvelle vitrine des entrepreneurs, des industries, des services et des financements. Il a réuni plus de 500 jeunes entrepreneurs mardi dernier à Kinshasa pour présenter leurs produits fabriqués au pays, une façon de les booster. Madame, Monsieur, bonjour. Les inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise ont visité le week-end de nombreux cachots de la police situés dans tous les districts de la ville de Kinshasa. Objectif, s'enquérir des conditions de détention, surtout du respect des droits de l'homme. Ceci fait suite aux nombreuses dénonciations des structures de la société civile. À l'issue de cette ronde, l'inspecteur général Jean-Claude Chibuyanga dresse ici le tableau des cachots qu'il a visités. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Nous avons trouvé quelques cas d'irrégularité, donc des arrestations arbitraires dues au dépassement des délais. Parce qu'au niveau des OPJ, la loi les recommande 48 heures pour détenir quelqu'un et puis l'amener au-delà de l'amener au niveau du parquet. Mais au niveau de l'état-major, ou l'amico de l'état-major du commissariat urbain, on a trouvé 7 cas d'irrégularité et qu'on a eu à libérer 5 personnes sur place. Et puis nous avons eu à interpeller des OPJ qui sont les auteurs de ces arrestations arbitraires. Des autres OPJ ont été convoqués parce que n'étant pas sur place. Alors au niveau de l'amigo des groupes mobiles d'intervention Kine, Ouest et toujours au Kalufungula, on a trouvé 3 cas d'irrégularité et nous les avons libérés séance tenante. Et l'OPJ n'étant pas sur place, on avait laissé une convocation. Au niveau aussi de l'amigo du commissariat de Barumbo, on a trouvé 3 cas d'irrégularité, donc dû à des arrestations arbitraires, c'est-à-dire les dépassements des délais, et nous les avons libérés aussi sur place et l'OPJ, auteur de ces arrestations arbitraires, a été convoqué.
Province du Tanganyika, les pêcheurs du territoire de Moba dénoncent des tracasseries, œuvres selon eux de certains agents de l'Agence nationale de renseignement. Ces derniers leur exigent une taxe supplémentaire. Ces pêcheurs ont rencontré à cet effet jeudi à Moba l'administrateur du territoire pour lui faire part de leur indignation. L'autorité a suspendu cette taxe qu'elle juge illégale. Aucune réaction jusque-là du côté de l'ANR Moba. Le point avec Paula Munanga.
Cette taxe que perçoit les agents de l'ANR auprès des pêcheurs dénommés contrôle des machines hors bord est fixée à 50 000 francs congolais. Mécontent de cette situation, les pêcheurs ont saisi l'administrateur du territoire de Moba. Pour le député provincial élu de Moba, Frédéric Kabunda, cette pratique est illicite. Cette taxe ne peut pas exister car n'ayant aucun soubassement légal. Le seul service de perception des taxes en province, c'est la DGRTANG et au niveau national, c'est la DGRTANG. Gérard, nous avons posé la question au responsable de l'ANR de nous dire qu'est-ce qu'il a fait avec les 75 000 francs congolais qu'il avait déjà perçus auprès des pêcheurs qui se sont acquittés de cette taxe. Et il nous répondra qu'il a dépensé cet argent. L'administrateur du territoire de Moba invite les pêcheurs à ne pas s'acquitter de cette taxe car étant illégale. Victor Kanfoua. Nous avons invité les responsables de l'ANR Moba et il a reconnu avoir perçu de l'argent de cette taxe. Mais uniquement pour ceux qui achètent de nouvelles machines hors bord. Mais cela n'est pas le cas. La taxe a été imposée aux pêcheurs au bord du lac. Je demande aux pêcheurs de ne pas s'acquitter de cette taxe qui n'est pas importante. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre les responsables de l'ANR Moba. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et à Beni, au Nord Kivu, une quarantaine de membres de la communauté, dont 25 femmes, ont été formées par la section de conduite et discipline de la MONUSCO CDT sur leur rôle dans la protection de la communauté contre les abus et exploitations sexuelles pouvant impliquer le personnel des Nations Unies et leurs partenaires. Cela est lieu au cours d'un atelier organisé au quartier général de la MONUSCO à Beni. L'objectif est d'améliorer la qualité de leurs interventions en ce qui concerne la protection des civils au sein de la communauté. Les détails avec Martial Papi-Moukeba.
La majorité des personnes formées sont des membres du réseau communautaire des signalements des plaintes CBCN. Ils ont appris les valeurs cardinales des Nations Unies ainsi que les notions d'exploitation et d'abus sexuels, leurs conséquences et les mécanismes des signalements et des prises en charge des victimes mises en place par la MONUSCO et les agences onisiennes. Nadine Ndanda, l'une des participantes, revient sur l'importance de la formation.
Notre objectif est d'avoir les zéro cas pour les abus et exploitation sexuelle. Nous avons appris comment dénoncer les cas, comment protéger notre communauté pour qu'il n'y ait pas une multitude de ces cas, parce qu'il y a plusieurs conséquences lorsque vous faites, vous participez à ces abus et exploitations sexuelles.
Pour sa part, Josué Kapisa, président du réseau communautaire des signalements des plaintes CBCN à Beni, salue la collaboration avec la MONUSCO.
Cette formation va encore renforcer nos capacités sur terrain. Nous apprécions cette collaboration parce que c'est grâce à elle qu'on a constaté la diminution des taux des cas d'abus et exploitation sur terrain.
Une formation jugée essentielle pour renforcer la prévention. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le réseau des associations pour le développement communautaire, RADEC, était en atelier vendredi à Salamabila, dans le territoire de Kabambaré. Il s'agissait pour ses membres d'élaborer un plan de réduction de risques liés aux violences sexuelles. Ces assises entrent dans le cadre du projet Assistance multisectorielle d'urgence en protection aux survivants des violences sexuelles dans la zone de santé de Salamabila. Elle vise à doter cette zone d'un outil pouvant l'aider à réduire les cas de violences sexuelles. On écoute à ce sujet Jean-Claude Kayumba, coordonnateur national de RADEC. Il explique l'importance de ces travaux. Il est joint par Florence Kizalunga.
Et nous savons que nous sommes dans une zone à conflit où les cas de violences sexuelles sont référés dans nos structures sanitaires que nous appuyons. Alors, il était important pour nous que nous puissions doter la communauté de Salamabila d'un plan de réduction des risques liés aux violences sexuelles. Et ce plan, nous savons que ça ne doit pas terminer tous les cas de violences sexuelles, mais ça peut même diminuer. Parce que dans ces cas, on a proposé les mesures de mitigation, on a parlé sur les menaces, on a parlé sur les causes de ces menaces, on a parlé sur les mesures de mitigation et on a parlé même sur l'échéance ou la période et on avait fait même le budget. Donc nous venons de doter ce plan de réduction des risques pour que tous celui, même les autres humanitaires qui viendront travailler dans le cadre des violences sexuelles puissent quand même s'inspirer de notre plan et puissent orienter leurs activités dans le cadre du projet des violences sexuelles, toujours dans ce plan de réduction des risques.
Sachez que ces travaux ont été appuyés par la Fondation Arnaud de la Camara d'Espagne, des autorités locales, des représentants des confessions religieuses et des leaders communautaires de ce territoire du sud du Maniema ont pris part à cette rencontre. Nous sommes en Ituri. L'accès à l'eau potable reste un véritable défi pour la population à Komanda Centre et dans les villages aux environnants. Cette agglomération de plus de 20 000 habitants accueille également de nombreux déplacés et enfouit les exactions des ADF dans la chefferie voisine de Wale Sevonkoutou. Faute d'infrastructures adéquates, la majorité des habitants s'approvisionnent dans des puits non aménagés ou directement dans les rivières avec des conséquences sanitaires. Les autorités locales appellent le gouvernement à lancer des projets d'adduction d'eau potable afin de protéger la santé publique. Comment cela se présente, David Mugisa?
À Komanda Centre, l'eau potable est une denrée rare. On ne compte que 4 puits aménagés pour desservir des dizaines de milliers d'habitants, sans compter des déplacés de guerre installés dans la zone. Pendant la saison sèche ou encore des fortes demandes, ces points d'eau tarissent régulièrement. Selon des sources locales, les femmes et les jeunes filles se lèvent dès 4h du matin pour aller à la recherche des points d'eau, une situation qui les expose à des risques de sécurité dans une zone toujours menacée par les ADF. Faute d'alternative, la majorité de la population consomme de l'eau insalubre provenant des puits non protégés ou de la rivière. Un notable de la région exprime son inquiétude et lance un appel à l'aide.
Le gouvernement puisse prendre la responsabilité et songer nous amener une eau qui pourrait répondre aux besoins de la population locale.
Même situation dans les villages voisins de Komanda, notamment à Bavokoutou, situé à une dizaine de kilomètres. Là-bas, les femmes passent parfois toute la journée à chercher de l'eau potable au prix de nombreux efforts. Témoignage d'inhabitantes.
Quand le soleil est ardent, nous avons des difficultés. Il y a beaucoup de gens au puits. Nous patientons jusqu'à avoir de l'eau. Les gens se querellent et se battent même pour en obtenir.
Selon les sources médicales locales, cette pénurie d'eau potable est à l'origine de nombreux cas de maladies hydriques dans la région.
Une campagne de vaccination contre la poliomyélite est en cours depuis vendredi dans la zone de santé de Cabinda, dans la province de la Lomami. Elle se clôture aujourd'hui dimanche. Près de 908 000 enfants de 0 à 59 mois sont concernés. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province, Célestin Kayembe Tiagi. Cela a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives et sanitaires. Selon le ministre provincial intérimaire de la Santé, Joseph Kabobo, cette campagne se déroule suivant la stratégie porte à porte, le but étant d'atteindre tous les enfants éligibles, même dans les zones les plus reculées. Les autorités sanitaires continuent d'appeler les parents qui n'ont pas encore fait vacciner leurs enfants à réserver un accueil favorable aux équipes de vaccination, cela afin de garantir le succès de cette campagne et renforcer la lutte contre la poliomyélite dans la province. Autour en Ituri, à Bounia cette fois, de nombreuses personnes, en particulier de jeunes sans emploi, dont certains venus du Nord et du Sud Kivu, se tournent vers le commerce ambulant pour assurer leur survie. Elles parcourent les différents quartiers de la ville, marchandises en main à la recherche des clients. Mais cette activité n'est pas sans conséquences sur la santé. On peut citer la fatigue, des maux de tête liés aux intempéries et aux longues distances parcourues chaque jour. Laetitia Aviakono nous décrit la situation.
Dans les rues de Bounia, les vendeurs ambulants sont omniprésents. De nombreux jeunes, souvent sans emploi, s'élancent dans cette activité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Sur la tête, au dos ou à la main, ils transportent divers articles, vêtements, chaussures, boissons et bien d'autres produits. Plusieurs affirment que les revenus sont meilleurs lorsqu'ils se déplacent à la recherche des clients plutôt que de rester à un point fixe. Cependant, cette activité comporte aussi des risques et des effets négatifs. Ces vendeurs évoquent notamment les douleurs musculaires et la fatigue due aux longues marches avec de lourdes charges. Ils sont également exposés aux vols et aux accidents, malgré les avantages qu'ils estiment tirer de ce commerce.
Je commence à 12h jusqu'à 20h. Je me promène partout à Bounia. C'est un métier qui est très difficile. Nous travaillons beaucoup. Lorsque nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de perdre l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous cherchons au moins double.
Par ailleurs, ces commerces ambulants échappent en grande partie au contrôle des services de l'État, ce qui représente un manque à gagner pour le trésor public. Bounia, Laetitia Viakuno, Radio Okapi.
Merci Laetitia. Dans l'actualité aussi, cet appel des étudiants vivant avec handicap, ils plaident pour leur inclusion dans le milieu académique. Ils déplorent les discriminations dont ils sont souvent victimes, le manque d'infrastructures adaptées à leurs conditions et de nombreuses autres barrières qui compliquent leur parcours académique. Ils l'ont dit au cours d'un atelier organisé par la coordination des étudiants vivant avec handicap de l'Université pédagogique nationale. Cela est le vendredi au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Que retenir à ce sujet, Gloriana Lepea?
Les étudiants vivant avec handicap plaident pour leur inclusion dans le milieu académique, estimant que leur droit à l'éducation reste encore insuffisamment garanti face aux multiples obstacles qu'ils rencontrent au quotidien. Dans les échanges, la juriste Bénédicte Wanganome a rappelé que l'inclusion commence par l'estime de soi, tout en évoquant l'application de mesures de réduction de frais académiques.
De prime abord, j'ai essayé de faire renaître l'estime de soi des étudiants handicapés. Lorsqu'on dit 50%, c'est déjà l'estime de soi dont on parlait. Aller dans la gratuité, c'est revenir au ministère des Affaires sociales, se refuser l'inclusion.
La spécialiste en éducation inclusive, Bibi Chilundu, a salué certaines avancées comme le rampe d'accès dans quelques institutions, tout en estimant que ces efforts restent insuffisants.
Les universités ont déjà pris conscience de cet aspect des choses et déjà il y a l'avancée significative dans la mesure où dans des bâtiments nouvellement construits, on a tenu compte des personnes vivant avec handicap, il y a des rampes. Le travail reste encore à faire. Nous lançons vraiment l'appel aux endroits des autorités.
Un appel est lancé pour rendre l'inclusion académique réellement effective en RDC.
Restons à Kinshasa. Plus de 200 femmes issues de plusieurs organisations ont clôturé vendredi une formation consacrée aux fondamentaux du syndicalisme, à l'éthique et à la déontologie de la femme syndicaliste. C'est une initiative du Syndicat national des techniciens en développement et travailleurs du Congo, Sinate Darko. Cette session de 4 jours vise à outiller les participantes sur leurs droits et devoirs au sein de la société. Le porte-parole de cette organisation insiste sur l'impact positif du respect des droits de la femme dans la société congolaise. Détecté avec Blaise Ndongala.
Cette formation était placée sous le thème « Femmes utiles, droits, justice et action pour toutes les femmes et filles dans les milieux professionnels, perspectives syndicales ». La session a été animée par les groupes d'appui et d'accompagnement du développement durable. Le président et porte-parole du Sénat d'ERCO s'est dit satisfait de la tenue de cette formation qu'il considère bénéfique pour les femmes appelées à jouer un rôle important dans la société congolaise. Bienvenue Moulenda.
Le quotidien des femmes continue à être violé. C'est comme ça que nous avons trouvé que les femmes méritent respect, méritent dignité, méritent d'être sécurisées, non seulement le 8 mars, mais toute l'année.
De son côté, la coordonnatrice de la cellule féminine de ces mouvements syndicaux encourage l'État à éliminer toute forme de discrimination à l'égard de la femme tout en assurant la protection effective de ses droits.
On a besoin de la parité. On trouve que quand on nomme dans l'administration, les femmes ne sont pas majoritaires. On peut nommer 10 directeurs, on va trouver 2 femmes. On nomme 20 chefs de division, on va trouver 3 femmes.
Organisé plus de 2 semaines après la clôture officielle du mois de mars dédié à la femme, cette formation s'inscrivait dans le cadre de la promotion et de la défense des droits des femmes en RDC.
Actualité internationale.
Le pape poursuit sa tournée africaine après le Cameroun. Léon XIV a atterri hier à Luanda, capitale de l'Angola. Ici, le pape dénonce notamment des catastrophes liées à l'exploitation des ressources au pays. Son programme comprend une messe en périphérie de la capitale, une visite du sanctuaire de Muxima, puis un déplacement à São Remo, à plus de 800 km. Cette visite en Angola se clôture mardi.
L'invité.
TKCorp est une nouvelle vitrine des entrepreneurs, des industries, des services et de financement mise en place par son coordinateur Souleyman Kaouka. Ce dernier a réuni plus de 500 jeunes entrepreneurs mardi dernier à Kinshasa pour que chacun d'eux présente son produit fabriqué au pays, une manière de les encourager à être compétitifs sur le marché national et international. Le coordinateur du projet TKCorp, Souleyman Kaouka, est notre invité. Il s'est entretenu avec Kaki Akewa juste après cette rencontre.
Souleymane Kaouka, bonjour.
Bonjour.
Après cette manifestation organisée ici au Grand Hôtel TKCorp pour les jeunes entrepreneurs, satisfaits?
Oui, je pense, parce qu'ils ont découvert ce qui sera leur outil de promotion, un outil où ils pourront vulgariser leur business, leurs produits. Ils pourront venir vendre ce qu'ils font de meilleur, de bien, surtout en entrepreneuriat local. Donc pour moi aussi c'est une fierté parce que bon, c'était quelque chose, l'idée m'est venue parce que j'ai remarqué au fil des temps qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des bonnes initiatives, des bonnes idées, qui entreprenaient dans des secteurs qui pouvaient révolutionner un peu l'entrepreneuriat, on peut dire congolais. C'est là que je me suis dit bon, pourquoi ne pas leur créer un outil qui pourra les vendre ou bien utiliser de notre petite notoriété pour devenir un peu leur communicateur. C'est pourquoi j'ai mis ça en place. Je me suis dit, bon, ils viendront présenter leurs produits et puis après, ce sera aux investisseurs, aux investissements extérieurs, à l'État ou, je sais pas, aux structures de l'État qui existent déjà, de leur venir en aide par rapport à ça. Donc, c'est pour moi vraiment un plaisir que ce soit une réussite et on estime que ça va aller très loin.
TKCorp, l'idée est venue comment? TKCorp, donc je trouve ça très original.
C'est très original. C'est pour effectivement, on voulait quelque chose de congolais. C'est au TKCorp, il y a Libandate, il y a Congo. C'était une idée comme ça. Alors, on est en train de voir comment on pourra extendre ça à d'autres horizons et tout. Mais pour ceux qui sont en province et qui veulent créer le même concept, on est ouvert à le faire et que ce soit aussi des entrepreneurs qui sont dans les provinces qui viennent présenter leurs produits.
C'était ma prochaine question par rapport aux provinces. Les jeunes de Kinshasa sont là, mais la salle était bouillante. Comment vous faites pour les gérer, tous ces jeunes-là qui viennent avec leurs problèmes?
Moi, je suis habitué. Les entrepreneurs, c'est mon... Voilà, c'est un peu mon monde parce que j'en suis un. Et puis, voilà. Donc, ça va, c'est gérable. On est entre nous et puis on sait comment se parler.
Souleymane Kaouka, comment avez-vous fait pour rassembler tous ces jeunes autour de vous ici au Salon Congo du Pullman?
On a lancé il y a 2 semaines un communiqué sur lequel on avait mis un petit support médiatique où on avait parlé du projet et on avait mis un lien d'inscription. Et en 10 jours, on a eu 1800 inscriptions, on a clôturé. On a pu recevoir que 700 personnes, 700 entrepreneurs par rapport à la capacité de la salle, qui est d'ailleurs de 550. On a fait avec. Et puis voilà, le résultat est très bien. On espère que les 2 numéros qui vont commencer à passer chaque mois pourront accueillir 8 entrepreneurs par mois. c'est pas énorme, mais ça va. Ça peut vendre 8 entrepreneurs en un mois. On s'est dit que un ou deux pourront bénéficier d'un petit financement. Et puis, voilà, c'est déjà bon pour nous.
Un message particulier aux partenaires financiers?
Oui, c'est vrai que c'est difficile de venir investir souvent dans des business qu'on ne maîtrise peut-être pas. Je donne un peu mon cas. J'ai souvent, il m'arrive de voir des bons projets, mais vous avez un peu peur. Vous vous dites, bon, j'ai peur de mettre mon argent, j'ai peur d'investir. Peut-être que les études, le business plan n'a pas bien été établi. Mais il faut quand même prendre le risque. Pour ceux qui en ont vraiment les moyens, je demanderai à ce qu'ils se lancent de ne pas hésiter d'aider tous ces jeunes qui sont créateurs de chaînes de valeur et tout. Et surtout à l'État aussi, avec toutes les agences qui ont été créées et toutes les agences qui ont été relancées, qui font déjà quelque chose, il faut le dire. On aimerait que ce soit encore plus. Et puis, comme je l'ai toujours dit, moi, je plaide toujours pour la création d'une banque d'investissement, d'une banque qui sera là pour financer les projets, les business des Congolais. Comme on le voit partout ailleurs depuis 20 ans, il y a des banques d'investissement, il y a des banques de crédit agricole, il y a des banques de crédit immobilier. Donc, on aimerait que ce soit aussi le cas ici. Alors, à partir de mai, on a le premier numéro avant la fin de la première quinzaine du mois. Et à la deuxième quinzaine du mois, on aura le deuxième numéro. Et on espère, on a des organes de médias qui vont nous accompagner pour la diffusion, et puis la rediffusion, la vulgarisation, la promotion de tous ces jeunes.
Monsieur Sule Kaouka, merci beaucoup.
Suleiman Kaouka, entrepreneur, coordinateur du projet TKCOP, interrogé par Kaki Akiwa. C'est la fin de ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par André Mungo avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée dominicale.